Vous écoutez Vincent Desseaux, Cube Radio.
On est de retour pour parler de crypto-monnaie. Je voyais des chiffres assez saisissants ce matin d'une firme d'analyse qui publie les chiffres en termes de piratage informatique de crypto-monnaie qui sont en forte hausse. On parle d'un bond de 60% en termes de valeur par rapport à l'an dernier. Et la valeur, faut dire, de la crypto a baissé fortement. Donc, d'avoir une hausse malgré la baisse, c'est que ça s'est fait pirater pas mal. Pour un total, selon eux, de 1,9 milliard de dollars pour les 7 premiers mois de l'année. C'est ce qui a matière à s'inquiéter. Si on comprend qu'il y a plusieurs plateformes de crypto-monnaie qui se sont multipliées dans les dernières années. Est-ce que il y a certaines technologies peut-être immatures? On en parle avec le consultant en cybersécurité Jacques Sauvé. Monsieur Sauvé, bonjour.
Bonjour.
Ça semble avoir été la manne pour les pirates informatiques, la crypto-monnaie, cette année.
Ah, les cyberméchants, ils sont partout. Puis oui, effectivement, là, c'est comme un gros festival pour eux autres, la crypto-monnaie.
C'est ceux qui vont parler de crypto-monnaie vont dire à quel point la technologie de chaîne de blocs et tout ça, c'est très sécuritaire. Est-ce que là où le maillon faible, ce sont les différentes applications, les protocoles informatiques qui suivent ça, qui, dans certains cas, ont des faiblesses?
C'est en plein ça. La chaîne de blocs, comme vous parlez, là, c'est quelque chose qui est assez évolué, là, puis que les gens ont une bonne confiance là-dedans. C'est assez sécuritaire, mais le problème, c'est tous les protocoles et les applications justement qui roulent là-dessus, qui gèrent tous ces échanges d'argent-là, les prêts, les emprunts, tout ça. C'est ce qu'on appelle du code source ouvert. Hein. Fait que n'importe qui peut regarder le code qui gère ces choses-là, incluant les cyberméchants. Puis eux autres, ils ont comme une bonne base en informatique. Hein. Fait qu'ils sont capables de regarder ça et de dire « Hey, regarde, il y a une vulnérabilité ici, je pense qu'on peut exploiter ça. » Puis effectivement, ils en profitent.
On semblait cibler particulièrement les Nord-Coréens. À quel point ils se sont développés une machine de piratage aussi perfectionnée?
Ah, ben on sait qu'il y a beaucoup de groupes de cybercriminels en Corée du Nord, entre autres. On sait qu'il y a évidemment les joueurs communs, la Chine, la Russie, l'Iran qui a été très actif dans les derniers 2 ans, mais la Corée du Nord aussi. Là, je veux dire, ils n'ont pas beaucoup d'échanges de biens avec bien des pays. Ils sont comme bien isolés. Fait que ça, c'est une façon facile pour eux autres là, d'accéder à des fonds. Donc oui, ça vaut la peine pour eux autres de mettre en place des groupes qui sont capables d'aller voler de l'argent.
Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que client, quelqu'un qui a de la crypto-monnaie, qui veut s'assurer de pas se faire dérober son compte? Est-ce que faut magasiner, essayer de trouver des entreprises qui sont mieux implantées? On comprend qu'on veut, il y a un peu cette mode en crypto-monnaie là, d'éviter les grandes banques, les grands systèmes bien implantés en disant que ça, c'est des technologies du passé. Comment on fait pour s'y retrouver là-dedans?
Ben, moi, ça me fait un peu rire quand je vois toutes ces choses-là, c'est les arnaques en crypto-monnaie, puis les hacks, puis tout ça, parce que hein, la majorité du monde que je connais, là, puis que les amis connaissent, ils ont peine à gérer leur compte Facebook. Fait que là, de se lancer à investir dans la crypto-monnaie, faut vraiment savoir quoi faire. Là. J'ai été mis au parfum d'une histoire là, d'une jeune dame qui avait investi 300 000 $ en crypto-monnaie l'année dernière, puis là, un moment donné, elle va s'acheter un iPad pour juste là pour faire gérer son portefeuille de crypto-monnaie. Mais au lieu d'aller sur le site de la compagnie où elle avait son portefeuille, elle a fait une recherche Google et là, elle est tombée sur un lien qui a été mis en place par un cyberméchant. Elle a cliqué sur le lien et ça ressemblait à son site, mais elle a mis son identifiant. Puis en quelques secondes, là, 300 000 piastres parties. Ça fait que ça, c'est tout des scripts automatisés. Donc, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Là. Ils ont de la misère à gérer leur compte Facebook. Ça fait qu'il faut vraiment avoir un peu de connaissances ou travailler avec quelqu'un qui a ces connaissances-là. Mais pour la majorité du monde, de se lancer là-dedans, là, c'est des gros risques.
Ouais, on comprend que dans certains cas, une fois que l'argent est perdu, on peut pas le retrouver, il n'y a pas d'assurance. Tandis que dans d'autres entreprises, si la banque perd votre chèque, ils vont vous rembourser, mais c'est pas le cas avec ces entreprises-là.
Non, c'est du tout. Puis c'est le but un peu des gens qui mettent ça sur pied, de contourner nos systèmes bancaires et tout ce que ça rassure aussi. Il y a des garanties là-dedans. Hein. Fait que oui, peut-être c'est vieux, peut-être ça date un peu, les processus sont lourds, ça coûte cher, mais il y a quand même des garanties dans notre système bancaire. Quand on se lance dans crypto-monnaie, là, on va se le dire, c'est le Far West, là, hein? C'est bonne chance, puis pars avec ton gun, bonne chance. C'est tout anonyme, d'où le pourquoi que les cybercriminels là, sont tous là-dessus. C'est comme ça, quand ils attaquent des entreprises avec des rançons officielles, ben c'est tout des transferts en crypto-monnaie, parce que c'est tout anonyme, on peut pas retracer ça.
Est-ce que, bon, c'est justement l'occasion de parler des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. Je comprends quand on a un compte de crypto-monnaie, vous parliez des comptes Facebook où généralement, les gens n'ont pas nécessairement du super mot de passe, utilisent leur mot de passe depuis le même, depuis 15 ans. si on a un compte en crypto-monnaie, faut s'assurer que le mot de passe est bon, d'avoir une double vérification et compagnie. Faut mettre toutes les options à on, pardonnez-moi l'expression.
Oui, faut être sécuritaire. Mais même là, tu sais, comme la jeune dame que je parlais, elle voulait bien faire, mais au lieu d'aller directement là, dans son furteur au site en question où elle fait ses transactions, elle a fait une recherche Google. Faut-moi pourquoi, là? Puis elle clique sur un lien qui est apparu. C'est un lien qui était, comme je disais, là, qui a été mis en place, une pub qui a été mise en place par les cybercriminels. Elle s'est fait avoir. Donc, faut vraiment avoir des bonnes pratiques au niveau de toutes les autres choses dans notre vie commune, informatique, nos comptes de banque, nos comptes de médias sociaux. Je dis tout le temps aux gens, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est d'apprendre à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Donc, moi, exemple, ça fait 10-12 ans à peu près que j'utilise OnePassword. C'est très sécuritaire. C'est une belle histoire de succès canadien. En plus, ils sont basés à Toronto. Et donc, ça permet d'utiliser des mots de passe très complexes, mais encore plus important, des mots de passe différents pour chaque site qu'on accède. Donc, s'il y a une brèche à quelque part, les super méchants, ils n'ont pas notre mot de passe pour rentrer dans tous nos autres comptes.
Comment ça fonctionne exactement, ce genre d'application-là? On l'a sur notre téléphone, donc ça va inscrire le bon mot de passe au bon endroit. Mais exact. Si on se fait pirater notre téléphone, est-ce qu'ils ont accès à tous nos mots de passe?
Ben, encore là, il faut sécuriser notre voûte, que ce soit OnePassword ou LastPass ou KeePass, il y en a plein sur le marché. Il faut sécuriser ça avec un bon mot de passe, mais on a juste un mot de passe à se rappeler là, pour débarrer nos voûtes. Puis, exemple, sur les plateformes Apple, exemple, on a la reconnaissance faciale. Donc, tu sais, il faut mettre quand même des mesures en place sur nos appareils. Comme ça, si on les perd, ben, quelqu'un ne peut pas rentrer dedans. Fait que, absolument, tu sais, moi, je travaille sur la sécurité, là, j'ai absolument confiance à ça. Il y a des réglages qu'on peut utiliser, des bonnes pratiques qu'on peut adopter et nos données vont être sécuritaires.
Au niveau de la gestion des mots de passe, parce qu'il y a ça, un bon gestionnaire de mots de passe, je comprends que c'est une bonne idée, parce qu'il faut trouver des alternatives. Essayer de trouver un mot de passe sur chaque site là, où on nous demande, ben là, il faut une majuscule, une minuscule, un signe de piste. Là, maintenant, on est tout mêlé. On se retrouve à devoir toujours faire l'opération de récupération de mots de passe pour des sites qu'on n'utilise pas souvent. C'est souvent mon cas. Ça devient problématique parce que là, on est obligé de passer par notre courriel où on utilise finalement des mots trop simples.
Ben c'est ça. Puis ça fait que ça fait deux choses. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, apprendre à utiliser ça, parce que un, ça va sécuriser vos comptes, hein, fait que ça vous allez utiliser des mots de passe complexes et différents pour chaque site, en plus d'activer l'authentification en double facteur, là, qu'on appelle. Comme ça, quand vous connectez, ben ça prend un code en plus du mot de passe. Puis l'autre affaire, c'est que ça relaxe le cerveau, hein, parce que là, on est obligé de se rappeler de 25 mots de passe complexes, comme vous dites, avec des majuscules, des minuscules, des caractères bizarres, puis ainsi de suite.
Mes questions, est-ce que en général, je comprends que des pirates peuvent essayer de vraiment de craquer de force à entrer dans mon courriel, par exemple. Mais souvent, les mots de passe vont avoir été trouvés lors d'un piratage d'une entreprise ou d'un site web. Il y en a eu plein au fil du temps. Donc, dans certains cas, j'ai l'impression, même si on a un très long mot de passe, si c'est notre fournisseur, un site internet qui s'est fait voler, les pirates vont avoir notre très long mot de passe disponible sur le dark web. Quelque chose qui implique, je suppose, de changer son mot de passe souvent.
Non, c'est plus une bonne pratique aujourd'hui, mais regardez, je vous donne un exemple, là, comme LinkedIn qui a eu une brèche en 2016, les noms d'usagers des mots de passe sont sortis. Fait que si on utilise un mot de passe différent pour chaque service, ben c'est moins un problème. Puis en plus, une application comme OnePassword, il y a quelque chose là-dedans qui s'appelle Watchtower qui va me dire, hey, LinkedIn a eu une brèche, tu devrais changer ton mot de passe parce que tu as un compte là-bas. Donc, ces applications-là font ça aussi. Là. Fait que si votre mot de passe ou votre identifiant apparaît sur le dark web, vous allez recevoir une notification de l'application pour vous dire de changer votre mot de passe.
C'est bien fait, ça, quand même.
Ben oui, c'est très génial. Pour ça, c'est un cadeau que vous pouvez faire.
Est-ce qu'on parlait des pirates, disons, poussés par certains même gouvernements, certains régimes, là, les Nord-Coréens, par exemple, par les Russes, les Chinois. Est-ce que des entreprises, il faut une entreprise d'une certaine ampleur pour avoir les ressources pour être capable de se défendre contre ça, ou même une petite entreprise ou une petite application peut être capable de résister à une opération qui nous cible, par exemple, quand on est visé par des pirates de ce calibre?
Oui, mais premièrement, il faut corriger de quoi? Là, je déteste quand les gens, puis pas tout le monde en général, il y a bien du monde là, qui disent que les PME sont ciblées. Pas tout à fait vrai, ça. La plupart du temps, là, c'est des balayages automatisés d'Internet. Hein. Il n'y a pas un méchant qui se lève en, en Russie un matin, avec son hoodie, qui dit, bon, aujourd'hui, je vais attaquer une petite PME au Québec. C'est tout des balayages automatiques. Quand ils trouvent de quoi te connecter à Internet, ils regardent s'il y a une vulnérabilité. Si oui, est-ce qu'on est capable d'exploiter? Fait que tout ce qui se passe la semaine dernière à UPA, à BRP, c'est probablement tout des balayages automatiques là, qui ont trouvé des brèches. Donc, au niveau des PME, je travaille beaucoup avec des PME, c'est exactement ça que je fais. Je les aide à se défendre de ça. C'est, plus souvent que d'autres, là, c'est d'adopter des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques, de la bonne hygiène TI, de s'assurer de faire les mises à jour, de bien gérer les mots de passe. Donc, c'est pas nécessairement là, d'acheter des dizaines de milliers de dollars de solutions informatiques. Plus souvent que d'autres, là, je dis, il y a plus d'impact à adopter des bonnes pratiques.
C'est bien. J'ai pris des notes, Jacques Sauvé de Trilogiam, donc consultant en cybersécurité. Merci beaucoup d'avoir été là.
Ça me fait plaisir.
On n'a pas fini de surveiller ce genre de dossier. Merci Jacques Sauvé, donc consultant en cybersécurité.